midi 6, merci beaucoup d'écouter Radio Alpha, la radio lusophone en France. Vous écoutez plus précisément l'Alpha 10-13 et vous êtes branché actuellement à sa rubrique de santé, la santé d'abord. Je suis en compagnie du docteur Marc Marty et de Suzette Fernandez. Bonjour à vous deux.
Bonjour Didier, bonjour aux auditeurs.
Bonjour à tous.
Le docteur Marc Marty, vous êtes rhumatologue depuis 35 ans, ancien président de la section Rachis, une association qui réfléchit sur les problèmes rachidiens, indépendamment, je le précise ici, de la Société française de rhumatologie. Et vous, Suzette Fernandez, vous êtes représentante d'usagers, vous siégez au conseil de surveillance et vous allez être le témoin, la parole des malades du point de vue associatif dans le cadre de cette rubrique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un problème dont beaucoup de Français et de Portugais qui nous écoutent aussi disent souffrir, puisque selon une étude d'il y a quelques années, une écrasante majorité de Français disaient être touchés par le mal de dos, une souffrance qui touche deux fois plus les femmes que les hommes et dont les jeunes ont tendance à ne pas considérer la gravité. 9 Français sur 10 ont déjà souffert du mal de dos et parmi les personnes touchées par ce qu'on appelle désormais le mal du siècle, 38% déclarent avoir souffert du dos plus de 10 fois au cours des 5 dernières années. Ma première question est donc très simple. Pourquoi sommes-nous, docteur, si nombreux à avoir mal au dos?
D'abord, la raison est complexe. C'est un fait. Le dos est une zone qui... Pourquoi? En fait, on ne le sait pas. En fait, on ne le sait pas vraiment pourquoi. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de nombreuses causes. Il y a des causes anatomiques. Ça veut dire qu'il y a une dégradation des ensembles constitutifs du dos, c'est-à-dire les vertèbres qui peuvent se casser, les disques intervertébraux qui peuvent s'abîmer, les muscles qui peuvent vieillir avec le temps. C'est un équilibre complexe qui supporte l'ensemble du poids. Et ensuite, toutes ces lésions, toutes ces structures anatomiques, on les utilise plus ou moins bien, avec des gestes plus ou moins adaptés. Et puis, le dos, c'est ce qui est derrière nous, c'est ce qui peut nous menacer. Et donc, il y a d'autres, une troisième catégorie de causes qui sont les causes dites psychosociales. Et on sait que lorsqu'on a des problèmes relationnels avec ses proches, avec son travail, ou avec d'autres interrogations qu'on peut se poser sur le sens de sa vie, eh bien, il y a une majoration de ses douleurs. Donc, tout ça fait que finalement, c'est très fréquent.
Avoir mal au dos est un symptôme qui peut traduire de nombreuses pathologies différentes. Lesquelles, par exemple?
Alors, les causes, on peut les distinguer de deux façons. Il y a ce qu'on appelle les causes non spécifiques, c'est-à-dire ou les causes, ce qu'on appelle non symptomatiques d'une maladie sous-jacente. C'est ce qu'on appelle la lombalgie commune, c'est-à-dire ce que tout un chacun peut ressentir dans sa vie. Et là, il faut bien distinguer dans ces lombalgies dites non spécifiques, asymptomatiques, communes, leur évolution, qui sont aiguës, ça veut dire ça dure pas très longtemps, moins d'un mois, subaiguës, ça va durer entre 1 à 3 mois, et puis au bout de 3 mois, ça devient chronique. Et puis, il y a les fameuses formes récidivantes. Ça veut dire les gens vont avoir mal au dos pendant une semaine, ça va partir, puis ça va revenir avec une intensité plus ou moins importante. Donc ça, c'est les lombalgies communes. Le vrai problème de ces lombalgies communes, c'est quand elles deviennent chroniques. C'est-à-dire quand elles deviennent chroniques et invalidantes. C'est le vrai problème qui va poser des problèmes d'ailleurs sociétaux, économiques, puisque les gens vont être en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Mmh. Ça, c'est la première catégorie qui est la plus fréquente, qui doit représenter 95%, enfin une très grande majorité des douleurs du dos. Et puis, il y a une deuxième catégorie qu'il ne faut pas négliger, et là, c'est le travail du médecin, ce sont les causes dites spécifiques. Ça veut dire des causes, c'est des mal de dos dits spécifiques, ça veut dire qu'ils font suite à une maladie sous-jacente, qui est, alors c'est rare, mais il faut savoir les détecter. Il y a des signes cliniques qui permettent de détecter. Et ces causes, ce sont par exemple des fractures, ce sont par exemple des tumeurs osseuses qui sont soit des tumeurs primitives du dos, soit des localisations secondaires éventuellement d'une lésion cancéreuse. C'est très rare, je tiens à rassurer. Une infection ou encore bien d'autres causes. Et là, il y a des signes d'alerte qui doivent alerter les médecins. Et c'est pour ça que devant une douleur qui persiste au-delà de plusieurs semaines, les recommandations sont 6 semaines, ou selon son caractéristique, il convient de faire des examens complémentaires. Avant, s'il n'y a pas de signe d'alerte, il n'y a pas lieu de faire des examens complémentaires.
Mais donc, en pratique, la majorité des douleurs de dos sont en fait des lombalgies.
Alors, effectivement, dans le mal de dos, le dos, c'est la région lombaire, c'est-à-dire la région située dans le bas du dos, hein, c'est les régions correspondant aux vertèbres lombaires. Ensuite, il y a le rachis dorsal. Là, on a les dorsalgies qui vont, c'est la région du milieu du dos. Et puis, il y a les cervicalgies, c'est-à-dire la région, les douleurs qui sont dans la région cervicale. La majorité du mal de dos, et notamment des causes non spécifiques, c'est la lombalgie, c'est dans le mal du dos, et quand on parle du mal du dos, c'est surtout des lombalgies. Il peut y avoir des causes spécifiques, mais d'une façon générale, lorsqu'on se fait mal au dos, et ça, et non, alors on va parler essentiellement de la lombalgie, mais la plupart de ce qu'on applique à la lombalgie peut s'appliquer aux dorsalgies, c'est-à-dire aux douleurs du dos et aux douleurs cervicales. D'une façon générale, quand on se fait mal au dos, ça veut dire brutalement, hein, soit à la suite d'un effort, soit à la suite d'un faux mouvement, soit à la suite d'un stress, soit à la suite... Peu importe le facteur déclenchant, la première attitude, c'est de maintenir ses activités. Prendre un antalgique, et si on peut reprendre ses activités le plus rapidement, il faut le reprendre. De nombreuses études ont montré que le maintien des activités était, par rapport au repos, est très bénéfique. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça a été très largement démontré.
Il ne faut pas se reposer.
Il ne faut pas se reposer, il faut maintenir ses activités. Alors évidemment, dans la limite du possible, ça veut dire que si vraiment on a très mal et qu'on ne peut pas bouger, il ne faut pas bouger. Mais ça a été clairement démontré dans 4 études randomisées très bien faites dans 4 pays différents, enfin 3 pays différents, que la mise au repos par rapport au maintien des activités est péjorative. Évidemment, toujours alerté, en cas d'aggravation au bout de quelques jours, de quelques semaines, il est évident qu'il faut aller voir son médecin. Et surtout s'il y a des douleurs la nuit, des douleurs inflammatoires, enfin différents signes d'alerte que je ne peux pas développer ici, le médecin doit faire des examens complémentaires, mais si ce n'est pas le cas, il n'est pas utile de faire des radios, de faire des IRM. Dans les 6 premières semaines, c'est à peu près ce qui est recommandé, en tout cas en France, et c'est à peu près la même chose dans les pays anglo-saxons, où il y a des recommandations australiennes, américaines, et même européennes.
Suzette Fernandez, j'imagine que vous en entendez des témoignages de patients qui se plaignent de leur dos.
Oui, mais bon, le point de vue médical, le docteur en parle très bien. Moi, je voudrais surtout attirer l'attention sur le fait qu'il est très facile de dire prenez rendez-vous chez votre médecin. Le tout est de trouver un rendez-vous. Et je vois docteur Marty sourire parce qu'il sait très bien comment ça se passe. C'est qu'on peut aller chez notre médecin traitant, encore faut-il en avoir un. Puisqu'il y en a beaucoup maintenant, il y a quand même plusieurs millions de personnes qui n'arrivent pas à avoir de médecin traitant, puisque les médecins n'en prennent plus, ne prennent plus de nouveaux patients la plupart. Et à l'hôpital, pour avoir un rendez-vous, il faut des mois pour avoir un rendez-vous en rhumatologie. Alors évidemment, tout le monde se précipite aux urgences pour un mal de dos. Moi, je voudrais parler de ça. Parce que on arrive aux urgences avec un mal de dos, on se bloque, on se fait une lombalgie, comment on appelle ça, un tour de rein. Enfin, on a beaucoup de noms, nous, population, patients, qui nous donnons beaucoup de noms différents à ce mal de dos. Et souvent, la réception de ces patients pour un mal de dos, c'est aller voir votre médecin traitant, prenez un rendez-vous en ville. Voilà, on n'est pas forcément. Vous venez de parler de causes qui peuvent être éventuellement graves. On n'est pas forcément aiguillé sur peut-être sur le bon chemin, sur le bon diagnostic ou pronostic.
Docteur Marty.
Là, vous évoquez un problème d'organisation des soins.
Tout à fait. C'est ce qui nous intéresse, nous, usagers.
Oui, mais malheureusement, moi, je suis pas responsable de la santé publique.
Mais ce que je voudrais mettre en exergue et mettre en avant, cette difficulté que nous avons à pouvoir consulter des spécialistes.
Alors, je vous dis, moi, je ne pourrais pas vous donner une solution sur
bien
ce
sûr,
point-là.
Bien
et
sûr.
On est là pour répondre aux auditeurs comment s'en sortir avec la conjoncture difficile actuelle. Donc, c'est que, d'une façon générale, il faut qu'ils sachent que, s'ils n'ont pas mal au dos et qu'ils ont une douleur aiguë, une douleur qui va les handicaper, il faut qu'ils se rassurent, ce n'est pas nécessairement grave. Ça, c'est le premier point. Je dis, ce n'est pas nécessairement grave. Ça peut l'être, mais c'est exceptionnel et c'est rare. Et ce qui va devoir les inquiéter, c'est que ça persiste. Donc, ça veut dire que si vous vous mettez à avoir très mal au dos, il n'est pas utile de se précipiter aux urgences, de téléphoner d'emblée. Tant que vous pouvez bouger les jambes, tant que vous pouvez vous mettre debout, sauf si vous avez un handicap majeur qui apparaît, effectivement, il faut s'inquiéter. Dans ces conditions, on appelle le 15, on raconte l'histoire. Mais donc, le plus important, c'est de les rassurer, de dire qu'il faut maintenir les activités, prendre des antalgiques à dose. Donc, des antalgiques, c'est du paracétamol, enfin, voilà, des antidouleurs. Éviter les anti-inflammatoires s'ils ont des contre-indications aux anti-inflammatoires et surtout se remettre en mouvement. Après, quand ils vont aller au médecin, d'ailleurs, on avait fait des présentations là-dessus, c'est pourquoi les malades vont voir le médecin, pourquoi ils ont ce besoin, c'est parce qu'ils sont inquiets.
Oui, le médecin est une figure d'autorité qui rassure.
Oui, bien sûr qu'elle rassure. Et le problème, c'est d'y accéder au médecin. Donc, c'est toute cette
difficulté. C'est tout le problème évoqué par Suzette Fernandez.
Le but de cette information qu'on donne, c'est qu'il faut, il faut pas s'inquiéter en fonction de l'intensité de la douleur. Par contre, si elle persiste, effectivement, il faudra consulter. Mais dès les premiers jours, on n'a pas besoin d'un médecin. Voilà, on n'a pas besoin d'un médecin. Il faut se remettre en mouvement et surtout ne pas s'allonger, puisque je vous explique que c'est nocif. Mais vous avez raison, c'est que quand ça persiste, il faut pouvoir accéder à un médecin. Et là, on est un peu dans le système D. Ça veut dire soit vous avez votre médecin traitant, vous arrivez à le contacter, ou sinon les gens vont aux urgences. Et là, aux urgences, effectivement, le médecin sera dans l'obligation de faire un tri pour éventuellement détecter une cause spécifique, qui, je vous rappelle, est très rare.
Mmh. Mais Didier parlait tout à l'heure des associations de malades. Effectivement, dans les associations de malades auxquelles j'appartiens, on voit beaucoup de douleurs chroniques, quelle que soit la pathologie. On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission. Il y a beaucoup de pathologies qui les personnes souffrent de douleurs chroniques, suivant leur pathologie. On parlait de fibromyalgie, il y a d'autres pathologies qui donnent des douleurs chroniques.
Oui, alors là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a la douleur aiguë, ça veut dire on a pas mal au dos, on se met à avoir mal. Jusqu'à un mois, ça reste ce qu'on appelle une lombalgie dite aiguë. Ensuite, tout l'enjeu de la prise en charge, et vous avez raison que le fait de ne pas avoir accès aux médecins, et que nécessairement tous les médecins ne sont pas formés à exactement ce qu'il faut faire face à la lombalgie, c'est d'éviter le passage à la chronicité. Ça veut dire que la douleur devienne subaiguë, et ensuite qu'elle devienne chronique. Chronique, ça veut dire qu'elle va persister plus de 3 mois, et puis au-delà, et d'éviter le passage à l'handicap. Et ce point est crucial, c'est-à-dire la période quand les gens commencent à avoir mal au dos et qui vont passer au stade subaigu puis chronique, en fait, souvent, il y a un facteur qui va intervenir, qui sont soit un facteur anatomique, mais c'est assez rare, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème au dos mécanique, mais c'est assez rare, surtout si c'est que dans le mal de dos, s'il n'y a pas de douleur de type ce qu'on appelle des radiculalgies, ça veut dire une compression. Alors d'abord, pour rassurer les patients, il faut savoir que s'ils ont mal au dos, ils ne seront jamais paraplégiques. La moelle épinière s'arrête au niveau de la première vertèbre lombaire. Donc la moelle épinière, elle est très très haute. Hein, donc il ne faut pas qu'ils craignent qu'ils soient paralysés. Donc si ce passage est essentiel, et l'un des facteurs qui va favoriser la chronisation, c'est un facteur qui n'est pas anatomique, qui n'est pas non plus fonctionnel, une mauvaise utilisation de dos, et ça a été largement démontré, ce sont des facteurs psychosociaux, et notamment ce qu'on appelle la tendance au catastrophisme. Vous avez un modèle qui s'appelle le modèle de Vlalen, qui a été très bien décrit, qui a été largement confirmé dans plein d'études, c'est que face à une douleur, vous avez un comportement de la douleur qui est triple, ça veut dire que cette douleur est plus ou moins intense, elle produit plus ou moins d'émotions négatives ou positives, elle a plus ou moins de sens sur votre vie, ça veut dire elle vous menace dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, etc. Et face à ça, vous allez vous comporter de façon différente. Ça veut dire soit avec un comportement d'évitement en disant « faut plus que je bouge, faut que je reste immobile » ou au contraire, un comportement ce qu'on devrait dire, de confrontation à la douleur en disant « faut que je réagisse, il faut que je fasse ». Et ça, c'est lié au comportement des patients. Alors on peut rien y changer, mais ceci dit, quand on explique aux gens qu'il faut qu'ils se confrontent à la douleur, on peut les aider à mieux confronter. Et schématiquement, si vous voulez, on a démontré qu'un traitement adapté en fonction de ce comportement du patient face à sa douleur, il y a eu des très belles études qui ont été faites en Espagne là-dessus, qui montrent qu'un traitement adapté à cette façon de se confronter ou non à la douleur, ça veut dire ceux qui se confrontent à la douleur, on n'a pas besoin de les aider, il ne faut surtout pas leur expliquer ça. Ceux, par contre, qui vont avoir un comportement d'évitement, une tendance qu'on appelle au catastrophisme, ceux-là, il faut les aider à lutter contre ce catastrophisme. Et quand on fait un traitement adapté dans ce genre, dans ce type, eh ben, on obtient des meilleurs résultats. Et ça revient à ce que vous disiez, c'est que l'accès aux soins, et l'accès notamment aux soins spécialisés, dans cette période de la 6e semaine où on a le passage de la lombalgie subaiguë au chronique, est crucial. Et dans certains pays anglo-saxons, il y a des structures entièrement adaptées qui font cette évaluation personnalisée des patients pour proposer un traitement adapté à ces patients. Chose qu'on n'a pas et qu'on n'arrive pas à organiser actuellement en France.
Et nous allons pour le moment, docteur Marty et madame Fernandez, marquer une courte pause. On revient dans un instant. Radio Alpha. Merci d'écouter Radio Alpha, merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 13. Vous écoutez plus précisément la rubrique de santé, la santé d'abord. Je suis toujours en compagnie du docteur Marc Marty, rhumatologue depuis 35 ans, et de Suzette Fernandez, représentante d'usagers qui siège au conseil de surveillance, également présidente d'association. J'aimerais revenir simplement sur une idée reçue, docteur, quand on a un mal de dos, il faut continuer des activités.
Oui, c'est vrai que ça paraît logique, on a mal quelque part, on se repose, ça va aller mieux, ça va cicatriser, enfin il y a tout un rationnel imaginaire qui peut expliquer que si on a mal, il faut se reposer, ça va aller mieux, voilà. Donc ça, c'est logique. D'ailleurs, quand j'étais étudiant, malheureusement, de médecine, il y a pas mal d'années, quand je dis malheureusement, c'est parce que ça fait beaucoup d'années, je préférais que ça soit plus récent, on m'avait dit que quand on a mal au dos, il faut se coucher sur une planche, faut se coucher et rester allongé pendant 8 jours, et après, ça ira mieux. En fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu plusieurs études dites randomisées, ça veut dire qu'on prend des patients, et puis on tire au sort le traitement qu'on va leur attribuer. Alors, il faut qu'ils soient d'accord, ils ont donné leur consentement, en leur disant, vous allez vous reposer 3 jours, et vous allez reprendre vos activités dès que vous pouvez. Il y a eu 4 études conduites dans différents pays qui ont confirmé la même chose, c'est-à-dire que les patients qui étaient incités à reprendre leur activité le plus rapidement possible allaient beaucoup mieux à 3 mois, en termes de douleur, et en termes de fonction, et en termes de reprise de travail. Donc, voilà, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, cette idée de mouvement, de l'importance du mouvement, du maintien du mouvement, a été repris par la campagne d'assurance maladie à laquelle la section Rachis a largement participé. Voilà, donc c'est sûr que c'est un schéma simplissime, mais schématiquement, l'activité d'abord, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour plein de choses, et c'est bon aussi pour le mal de dos et particulièrement la lombalgie.
Une question qui nous arrive à travers notre WhatsApp, le 06 72 10 98 60, une question de Sandra qui demande « Les émotions jouent-elles un rôle dans le mal de dos ?»
Oui, toutes les émotions jouent un rôle dans toutes les douleurs chroniques. Alors les émotions, c'est un peu un terme générique, mais notamment les émotions négatives. Les émotions positives peuvent au contraire faire disparaître les douleurs chroniques parce que les mécanismes de l'émotion et les neuromédiateurs, c'est-à-dire les substances chimiques qui commandent à la douleur, sont communes à l'émotion. Donc, une émotion négative peut parfaitement aggraver une douleur et une émotion positive peut au contraire l'améliorer. Donc ça, c'est la réponse est oui. Elles peuvent jouer, mais dans un sens ou dans l'autre, ça dépend quelle est la nature d'émotion.
J'imagine que vous avez eu des témoignages dans ce sens, Suzette Fernandez.
Bien sûr, oui, tout à fait. Surtout, comme on en parlait tout à l'heure avec le docteur Marty, surtout quand il s'agit de fibromyalgie. L'état d'esprit, la combativité des malades compte beaucoup pour lutter contre les douleurs chroniques.
Oui, alors l'exemple de la fibromyalgie, il est un peu différent parce qu'on a certains progrès très très récents sur la fibromyalgie qui... Alors même dans les lombalgies chroniques, alors, voilà, il y a des progrès qui font qu'on voit un peu les choses un peu différemment. Mmh. Alors d'une façon générale, vous avez 3 types de douleurs. Vous avez les douleurs dites nociceptives, ça veut dire il y a une lésion quelque part, le disque est abîmé, le disque va entraîner une inflammation, l'inflammation va stimuler ce qu'on appelle des récepteurs sensitifs, on vous pince la peau à l'extérieur, vous pincez la peau sur le doigt, vous allez déclencher une douleur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire c'est quand un nerf est abîmé. Hein, c'est ce qu'on appelle, par exemple, chez les patients qui ont une amputation, ils ont mal ou ils ont des douleurs sur le nerf qui est amputé parce que le nerf a été coupé, le membre est coupé et ils ont mal parce que le nerf reçoit une mauvaise information, donc c'est une douleur neuropathique. Et ensuite, il y a une nouvelle catégorie de douleurs, c'est les douleurs nociplastiques, c'est-à-dire c'est des douleurs, on ne sait pas d'où elles viennent. Alors, parfois chez les lombalgies chroniques, on peut avoir ce cas. Et chez les fibromyalgiques, on se rend compte qu'on n'a pas de cause chez les fibromyalgiques. C'est des patientes qui ont mal un peu, souvent des patientes, parce qu'il y a une prédominance de femmes,
qui ont
mal partout. Il n'y a pas d'origine de ces douleurs. Alors vous avez d'autres douleurs chroniques comme ça où on ne sait pas. Et là, il y a des données récentes qui a peut-être une participation, parce qu'il y a une association aux troubles, ce que vous appelez les troubles émotionnels, enfin, ou des troubles de l'humeur, hein, ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Mais on a trouvé des signes d'organicité par rapport à des études de neuroinflammation, ce qu'on appelle de la glie cérébrale, c'est-à-dire la substance qui lie les neurones dans le cerveau. Alors, c'est des nouvelles notions, mais ce qui nous permet de comprendre peut-être pourquoi on ne comprend pas ces douleurs. Alors, pour le moment, il n'y a pas de traitement, et c'est vrai que les fibromyalgiques, parfois sont extrêmement gênés, et comme les lombalgies chroniques, parfois vous avez des lombalgies chroniques, on ne sait pas pourquoi il y a un an, et d'ailleurs... on sait qu'il n'y a pas de corrélation très importante entre les lésions anatomiques qu'on voit sur le rachis, l'intensité de la douleur et l'handicap fonctionnel et le retentissement sur la qualité de vie. Toutes ces notions ne sont pas très connectées. Et probablement qu'un des facteurs sont des facteurs centraux dans le cerveau qui coordonnent tout ça dans un bon sens, puisque vous avez des gens avec des rachis, on se dit, mais comment ils font pour ne pas avoir mal au dos? Et les gens n'ont pas mal. Et puis vous en avez d'autres, ils arrivent avec un rachis quasiment qui nous paraît normal, sans discopathie, sans jeu majeur, et ils ont très mal.
Alors pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que le rachis?
Alors le rachis, c'est le dos, hein, c'est le rachis, je m'excuse, le rachis, c'est ce qu'on appelle le dos, enfin le, voilà, le rachis, c'est le dos.
Docteur, pourquoi les femmes sont-elles plus touchées
alors
par
ça,
le mal de dos?
L'un des facteurs, c'est le facteur hormonal, peut-être. Le deuxième facteur, c'est le facteur statique du rachis, il y a de petites différences. Ça veut dire que la forme du bassin, et voilà, franchement. Mais c'est les principales explications. Après, il y a d'autres explications qui avaient été évoquées. C'est la notion de l'activité physique qui était peut-être plus importante chez les hommes. Donc, contrairement à ce qu'on va dire, c'est que l'activité... Non, mais je dis bien peut-être, hein, je ne confirme pas. En fait, vous savez, les épidémiologistes s'interrogent assez peu sur les causes de ce qu'ils constatent. D'ailleurs, on constate, c'est plus fréquent, c'est comme ça. Après, on peut chercher des hypothèses. Je vous ai évoqué trois causes, on pourrait en trouver d'autres, mais je ne suis pas un spécialiste. Alors, par exemple, sur la douleur chronique, vous avez des gens qui s'intéressent beaucoup aux différences de la douleur chronique chez la femme et chez l'homme, et probablement qu'il y a des différences, mais c'est très lié aux impressions hormonales. Vous savez que chez les femmes, il y a une imprégnation œstrogénique beaucoup plus importante, et chez les hommes, c'est la testostérone. Et probablement que la testostérone n'a pas les mêmes effets sur les récepteurs de la douleur que les estrogènes. D'ailleurs, vous voyez bien qu'au moment de la ménopause, au moment où il y a la chute estrogénique, les femmes ont plus de douleurs qu'avant. Parce que les estrogènes ont un effet antalgique.
Est-ce que l'hérédité est en cause dans le mal de dos?
Alors, de deux façons, pour simplifier, parce que ça peut aller très loin. Un,
allons-y.
C'est qu'il y a des facteurs génétiques qui interviennent dans ce qu'on appelle la discopathie dégénérative, ça veut dire dans l'atteinte des disques intervertébraux, hein, puisqu'on a 5 vertèbres lombaires et entre ces vertèbres, il y a des disques. Et là, on sait qu'il y a des facteurs génétiques qui peuvent intervenir, mais je vous expliquais que les relations entre discopathie dégénérative et l'intensité de la douleur, de la fonction et de la qualité de vie n'est pas très fort. Et le deuxième facteur génétique, il porte surtout sur ces facteurs, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, relationnels, psychosociaux, soit par une prédisposition génétique à avoir, disons, des troubles de l'humeur de type dépression, de type tristesse, soit, deuxième facteur, mais on ne sait pas s'il est génétique et c'est ça qui est difficile, par le contexte familial. Ça veut dire que quand un enfant vit dans un contexte avec ses parents qui se plaignent toujours de douleurs, etc., etc., il pourrait, et d'ailleurs c'est pour ça toute la difficulté des études, c'est de distinguer entre l'environnement de la personne et ses facteurs génétiques. Mais il y a une petite tendance à dire oui, mais le contexte intervient certainement plus peut-être que la génétique elle-même.
Suzette Fernandez, vous avez déjà été confrontée justement à des patients qui vous révélaient que l'environnement leur crée ce mal de dos?
Non, alors là je suis... C'est la première fois en fait que j'entends cette constatation. Je n'y avais pas pensé non plus personnellement, mais maintenant à tout bien y réfléchir, peut-être que oui, il y a, quand on est petit, on est facilement influençable et surtout par ses parents. Et à force d'entendre les gens se plaindre, peut-être qu'on se dit que c'est normal d'avoir mal au dos, d'avoir mal là, ou peut-être oui.
Oui, il y a plusieurs études qui montrent, et d'ailleurs. On sait que les difficultés de la vie font que tout est plus difficile. Et les données épidémiologiques le montrent très bien, que les incidences de ce type de lombalgie chronique, le facteur psychosocial pèse beaucoup plus, par exemple, que les activités physiques lourdes. Ça veut dire que le fait d'être déménageur, le fait de soulever des charges lourdes, il y a une espèce de tri. Ça veut dire que si on est maçon ou si on fait un travail manuel... généralement, si très rapidement on a mal au dos, on ne le fait pas. Donc, quand vous regardez les maçons de 50 ans, y en a beaucoup qui travaillent. Et nous, ce qu'on voit comme lombalgie chronique, c'est assez peu des travailleurs manuels. Il y en a, évidemment, il y en a. Mais finalement, la proportion et les études épidémiologiques montrent qu'il y en a. Ce n'est pas le facteur clé. Le facteur clé, ce sont les facteurs psychosociaux.
Si je peux me permettre, tout à l'heure, on a parlé avant l'émission justement de ces facteurs sociaux. Et vous nous avez dit quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas, Didier, si on peut en parler maintenant.
Oui, oui, bien sûr, je voulais justement l'aborder. Très bonne transition.
On a dit quelque chose de très intéressant qui m'a interpellée et je pense que à tout le monde, d'ailleurs, ça peut intéresser tout le monde.
Mais je pense que vous évoquez les difficultés dans la prise de décision sur les choix de vie. Alors, je pense que vous évoquez tout à l'heure...
Voilà, le cas particulier, justement, des
personnes. Il ne faut pas le généraliser,
bien sûr.
Il ne faut pas le généraliser. Mais c'était un de mes amis qui fait beaucoup de, qui est rhumatologue à Aix-les-Bains, le docteur Duplan, qui avait eu ce cas et qui s'intéresse beaucoup à la douleur chronique et notamment aux obstacles, si vous voulez, de la guérison. Ça veut dire pourquoi, alors soit il y a une lésion anatomique, mais enfin généralement on a fait des radios, on a fait des IRM, voilà, on s'intéresse au travail, on voit bien que les gens ne font pas des choses anormales avec leur dos, mais ils ont toujours un blocage de dos, ils sont handicapés de façon anormale. Et donc là, il faut s'intéresser vraiment à leur vie. Et là, je vais vous raconter cette histoire de ce blocage. Alors, c'était un couple portugais, enfin d'origine portugaise. Je ne sais plus s'ils étaient naturalisés français ou s'ils étaient portugais. Mais en tout cas, le mari, à un moment de la retraite, voulait retourner au Portugal et l'épouse ne voulait pas retourner. Et la patiente était lombalgie chronique. Et en fait, il a fallu débobiner cette histoire et bien clarifier cette histoire. Mais c'est certainement très involontaire. Ça veut dire que cette préoccupation de cette femme qui ne voulait pas rentrer au Portugal pour rester proche de ses enfants, enfin pour différentes raisons, et on peut le comprendre, hein, on peut comprendre le mari qui veut retourner, on peut comprendre la femme qui veut rester, pour des intérêts probablement différents. En fait, il a fallu débobiner cette histoire et clarifier cette histoire, comprendre ce qui se passait pour régler ce problème de lombalgie. Alors, ça paraît complètement, on se dit, mais docteur Marty raconte n'importe quoi.
Mais c'est de l'ordre de la psychanalyse presque là.
Oui.
Son corps a exprimé un ressenti intérieur.
Voilà, donc il faut très clairement, quand on a une lombalgie, faire examiner le patient, faire des radios, bien l'interroger sur le type de douleur, faut faire... Pour comprendre un mal de dos, il y a trois modèles de compréhension qu'il faut analyser trois fois. Un, le modèle, ce qu'on appelle anatomoclinique. Ça veut dire, y a-t-il des lésions anatomiques que je vois sur l'examen clinique ou sur les examens complémentaires, les radios, l'IRM, le scanner, etc., qui peuvent expliquer les douleurs, anatomoclinique. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des anomalies? Ça veut dire, j'ai le cas, ce qu'on appelle le modèle fonctionnel. Ça veut dire, est-ce que ce patient n'abuse pas de son dos? J'avais un patient qui ne dormait jamais, quasiment. Il dormait que 4 heures. Et parce qu'il travaillait, il avait deux emplois, un de jour, un de nuit. Et il avait mal au dos tous les matins. Ah, il dormait 4 heures. Et quand il partait en vacances, il n'avait jamais mal. C'est normal, ses disques se...
Donc a priori, pas besoin de 15 ans de médecine pour l'analyser.
Non, mais il fallait quand même que je l'interroge.
Bien sûr.
Voilà, donc on l'a interrogé, c'était le modèle fonctionnel. Et puis vous avez un troisième modèle, donc premier anatomoclinique, deuxième fonctionnel, ça veut dire pour voir s'il ne fait pas des efforts incommensurables, essayer de voir les facteurs déclenchants, éviter les facteurs déclenchants. Et le troisième, c'est le facteur psychosocial. C'est le plus dur à appréhender, parce que c'est le plus dur à appréhender, parce que alors, vous pouvez aller même jusqu'aux agressions dites sexuelles, jusqu'à des choses enfouies dans l'inconscient. Et on n'aborde pas comme ça les choses en disant « Madame, est-ce que vous avez un problème ?» Non, non, c'est très compliqué et c'est très compliqué à débobiner. Et pour ça, ben, il faut faire une approche, ce qu'on appelle semi-directionnelle. Ça veut dire qu'il faut laisser parler les gens, il faut laisser s'exprimer et ce qu'on appelle les éliciter, c'est-à-dire les faire parler, mais pas avec une lampe dans les yeux. Il faut les amener doucement à accoucher des problèmes. Et puis, parfois, bah, je vous dis, chez Bernard Duplan, il les hospitalise, ses patients. Et ce sont les psychologues, les psychiatres et lui-même qui vient discuter pendant un petit bout de temps avec les gens pour savoir ce qui se passe. J'en ai d'autres, des exemples comme ça, mais on ne va pas citer tous les exemples parce que...
Mais docteur, à vous écouter, on a l'impression qu'avoir un mal de dos dans sa vie, c'est normal. On finit par avoir un mal de dos, forcément,
oui,
dans son existence.
Les données épidémiologiques montrent que la prévalence de vie, ça veut dire le fait d'avoir mal dans son dos, est quasiment de 100%. Voilà. Donc, c'est 100%. Tout le monde dans sa vie aura mal au dos. Le problème, c'est pas d'avoir mal au dos pendant une semaine, 15 jours, voilà. Les deux problèmes, c'est un, c'est si la lombalgie, ça veut dire la douleur dans le bas du dos, devient chronique et invalidante. Et là, on sait que plus elle dure... Enfin, on le sait, on l'a démontré, que plus elle dure, moins elle a de chances de guérir. Alors probablement parce que plus elle est sévère, parce que plus elle dure, plus elle est sévère, et surtout plus elle est sévère, plus elle est ancrée dans la vie, et plus c'est difficile au patient de passer d'un statut de lombalgie chronique handicapée à retourner à un stade normal. Mmh. Bon, ça ne veut pas dire que les choses sont désespérées, mais quand même. Et la deuxième chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est quand il y a des douleurs qui apparaissent dans les membres inférieurs, c'est-à-dire des douleurs dans la fesse ou à la face postérieure de la cuisse ou la face externe qui va dans le mollet, qui va dans le pied. Là, on n'est plus du tout sur le même registre. Et là, il faut vraiment voir une approche médicale, faire des examens. C'est ce qu'on appelle une lombosciatique, voilà, c'est ce qu'on appelle une lombocruralgie. Enfin, ça veut dire qu'il y a une racine qui est comprimée soit par une hernie discale, soit par ce qu'on appelle par l'arthrose du dos. Et dans ces conditions, eh ben là, les traitements sont beaucoup plus... On a peu parlé des traitements encore.
Mmh, on va les aborder juste après la pause que nous allons marquer dans un instant.
Voilà, donc là, il y a des traitements beaucoup plus adaptés qui peuvent aller même jusqu'à la chirurgie, où là, la chirurgie a une logique pour lever une compression sur une racine nerveuse. Mais là, on est dans un deuxième registre. Lombalgie, c'est mal dans le dos, et puis lombo-radiculalgie, la douleur descend dans les membres inférieurs.
Et nous allons donc pour le moment marquer une courte pause, et on revient juste après avec des solutions, des conseils et des traitements pour nos auditeurs et auditrices. Lombalgie, douleur sciatique, hernie discale, tout cela est très différent, mais quels sont donc, docteur, les traitements possibles ?
En prévention... Ayez une vie saine et ne soyez pas trop anxieux, il faut se décontracter, mais avec toutes les difficultés du monde. C'est clair que les facteurs déclenchants, et puis surtout, maintenir toujours une activité physique et éviter de porter des charges trop lourdes quand même dans de mauvaises positions. Même si, comme facteur déclenchant, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus démontré, puisque je vous ai dit que les travailleurs de force n'ont pas spécialement plus de lombalgie que des non-travailleurs de force. Mmh. Mais tout de même, si on constate que lorsqu'on fait certaines activités, on déclenche des douleurs, ou dans certains gestes, évitez ces gestes parce que chaque dos est personnel et a ses caractéristiques. Donc bien analyser ce qui déclenche les douleurs. Quand on refait une première fois, il faut se dire « j'ai fait du cheval, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Eh ben moi je dis aux gens, écoutez, si à chaque fois vous faites ça, évitez de le faire. De toute façon, on ne pourra pas changer les choses, donc faut analyser ce qui déclenche les douleurs. Ça, c'est la prévention. Quand ça survient, on a dit, si c'est aigu, maintiens les activités un peu dentalgiques. Ensuite, le problème, c'est quand ça passe à la chronicité, quand ça devient de plus en plus. Alors là, les traitements, à un moment, c'est pas aux malades à faire de l'automédication, c'est le médecin. Schématiquement, je vais vous dire... Il y a quatre types de traitements, quatre catégories de traitements. Il y a ce qu'on appelle les médicaments antidouleurs. Donc, c'est les antalgiques, c'est-à-dire les médicaments antidouleurs, plus ou moins puissants, le paracétamol, de la codéine, du tramadol, etc. Ce sont des molécules qui sont plus ou moins puissantes. Il faut faire attention de ne pas les prendre de façon chronique si c'est des opioïdes, même faibles. Ça peut être les anti-inflammatoires, ça peut être les infiltrations, ça peut être les applications de chaud, les applications de froid. Il y a toute une série de traitements dirigés contre la douleur, je ne peux pas tous les énumérer. Deuxième catégorie de traitement qui est tout aussi importante, c'est le traitement dit fonctionnel. Ça veut dire la rééducation, donc faite soit par des exercices, le maintien des activités, et puis surtout, le traitement fonctionnel, c'est ce que j'ai dit à l'instant, c'est d'éviter les facteurs déclenchants de la douleur ou les facteurs aggravants. Parce que parfois, on peut avoir un fond douloureux et puis on se rend compte que quand on fait certaines choses, ça les aggrave. Il faut les éviter. Ça, c'est le traitement fonctionnel. Il y en a bien d'autres, mais je ne peux pas tous les énumérer. La troisième catégorie de traitement, notamment quand on a une difficulté au travail, une difficulté dans sa relation avec... Il faut se faire aider éventuellement par un psychologue. Il faut demander ça à son médecin traitant, par les psychologues, les psychiatres, par de la relaxation... par des activités décontracturantes, etc. Et enfin, la dernière chose, c'est le traitement chirurgical. En cas de lombalgie sans douleur dans les membres inférieurs, la chirurgie est exceptionnellement indiquée. Elle n'est réservée qu'à des cas de grande lombalgie, avec une corrélation anatomoclinique très forte, sans facteurs psychosociaux détectés, sans facteurs fonctionnels prédominants, donc traitement chirurgical, mais c'est très rare. Ça peut être soit des arthrodèses, soit des prothèses de disque, mais c'est très très rare, et centre spécialisé en consultation pluridisciplinaire. Sauf quand il y a une sciatique, quand il y a une douleur dans la jambe, s'il y a une hernie discale et que cette hernie discale est bien responsable d'une douleur bien localisée qui a une très bonne corrélation anatomoclinique, on peut proposer une chirurgie qui va libérer la racine et donc lever la douleur qui se situe dans le membre inférieur, ou parfois, quand c'est une sténose du canal rachidien, là, la douleur va se manifester surtout à type de claudication. On peut proposer là aussi une chirurgie libératrice.
Docteur, voilà. on dit souvent pas de bon dos sans abdos, c'est vrai ?
Oui, oui. Enfin, il peut avoir un bon dos sans abdos, mais il vaut mieux avoir des bons abdos pour pas avoir mal au dos. C'est clair que les abdominaux participent ce qu'on appelle à la statique rachidienne. Et si vous avez des abdominaux qui sont trop longs, et notamment s'ils sont trop longs, vous imaginez que vous allez favoriser la cambrure, schématiquement. Et d'ailleurs, une des façons de lutter contre les contraintes, parce qu'il faut expliquer pourquoi, mais là, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais schématiquement, si vous faites des abdominaux, c'est favorable pour votre dos, et surtout, il faut les travailler en raccourcissement. Ça veut dire qu'il ne faut pas les travailler à plat, il faut les travailler en position courte, c'est-à-dire plutôt à 90 degrés. Et dans les abdominaux, il faut travailler les quatre types d'abdominaux. Vous avez les grands droits qui sont verticaux, vous avez les obliques qui sont dans les deux sens, et vous avez les transversaux. Donc les transversaux qui sont au contraire horizontales. Donc, et les types d'exercices sont différents. Sur Internet, vous pouvez trouver des tutos comment travailler ses abdominaux, les grands droits, les transversaux et les obliques. Vous avez les obliques dans les deux sens.
Et pour conclure, docteur Marty et Suzette Fernandez, comment agir au quotidien pour ne pas souffrir de ces douleurs ?
C'est d'avoir, si possible, une vie saine, éviter les facteurs déclenchants. Ça, c'est très important. Ça veut dire de constater ce qui vous fait mal. Tout peut intervenir, puisqu'en fait, chaque personne a un rachis, un dos spécifique. Vous avez, il y a, par exemple, la position d'être assise. Si vous avez mal en position assise, surtout, il faut s'asseoir comme on le souhaite. Et il y a plein de facteurs. Il y a la hauteur de l'assise, il y a la longueur, il y a la position entre la hanche, etc., etc. Il y a énormément de facteurs. Et ce qu'il faut, c'est bien analyser. Par exemple, si quand vous asseyez sur un type de fauteuil, vous avez mal au dos, eh ben, évitez ce type de fauteuil. Ma compagne a acheté des fauteuils très modernes, certains types de fauteuils très modernes. Je ne peux pas m'asseoir dedans. Moi, je refuse de m'asseoir dedans, puisque de toute façon, quand je m'assois, j'ai mal au dos. Donc, de toute façon, voilà. Donc, il ne faut pas s'asseoir sur ces fauteuils. Et il ne faut pas hésiter à affirmer et constater ce qui passe. Et il faut être pragmatique et il faut être opérationnel. C'est la façon la plus importante. De toute façon, votre dos, vous ne pourrez pas le changer. Voilà, vous ne pourrez pas le changer. Donc, s'il y a des choses que vous ne supportez pas, ben, il ne faut pas le faire.
Tout simplement.
Mais tout simplement, parce que, ça déclenche votre douleur, parce que votre dos... Alors, vous avez différents types de dos. Schématiquement, vous avez des dos plats, harmonieux, inharmonieux, des dos courbés normalement, avec une belle syphose, c'est-à-dire une bonne cambrure lombaire, et puis une petite bosse dorsale, pas trop. Et puis, vous avez les dos qui ont des courbes extrêmement importantes, avec une cambrure très importante. Et tous ces dos, en fonction de leur forme, et vous avez même des sous-types de ces types de formes, exposent à des pathologies différentes. Et malheureusement, quand on a un dos plat constitutionnel, ça veut dire avec des tout petites courbures et avec certains paramètres, vous ne pouvez pas le changer, mais par contre, ça va vous exposer à plus de pathologies discales, plus de dégradation du disque si vous avez un dos dit « normal », entre guillemets, c'est-à-dire « normaux » avec des courbes plutôt dans les normes, c'est-à-dire dans la moyenne.
Merci beaucoup, docteur Marty. Merci beaucoup, Suzette Fernandez, pour votre expertise et pour être venue jusqu'ici en studio à Radio Alpha nous parler de ces douleurs lombalgiques, plus globalement des douleurs de dos. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.